Une petite précision sur la longueur du poème. La suite que j'ai choisie pour mon analyse contient 7 pages au total. Il est dur d'affirmer chez Albiac que chaque page constitue un seul poème, tant la poète crée des renvois, des jeux de spatialité et des effets de miroir d'une page à l'autre. Sa poésie m'apparaît plutôt comme un parcours, et le segment que j'ai choisi de délimiter est tout à fait arbitraire. Donc ce segment va des pages 43 à 46. Il me semble que la définition du vers que propose Laurent Jenny dans La parole singulière m'autorise cette délimitation assez arbitraire. Lui qui affirme que le vers est, et je le cite, « une structure de discours où est assurée la possibilité de l'enjambement, c'est-à-dire d'une disjonction entre limites syntaxiques et limites formelles ». Fin de la citation. La pertinence de cette définition du vers vient du fait qu'elle permet de prendre en considération, dans le cas qui nous occupe, le phénomène de la spatialité, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Donc, 2 ou 3 brefs repères biobibliographiques avant de commencer, très rapidement. Donc, Albiac a beaucoup écrit en revue. Il a publié des textes dans des petites maisons d'édition comme Orange Export Limited. La majorité de ses poèmes ont été rapaillés dans 4 recueils, État en 71, Mezza Voce en 84, Figure Vocative en 85 et Figuration de l'image en 2004. Elle a fondé, aux côtés de Claude Royer-Journoux et de Michel Couturier, la revue « Siècle à main », dont le titre est tiré, vous l'aviez sans doute deviné, du poème « Mauvais sang » de Rimbaud. Donc, la suite « Où la forêt est la plus sombre », entre guillemets, précédée de points de suspension, hein, c'est vraiment comme ça que c'est écrit, que je choisis d'analyser aujourd'hui, a été écrite juste après la mort du père d'Anne-Marie Albiac. Bon, je ne sais pas si ça peut nous amener quelque part, mais c'est mentionné à peu près partout quand on lit des trucs sur Albiac. Et elle constitue le 5e texte de Mezza Voce. Donc, je commence. Donc, une des premières choses à me frapper dans ce poème est l'omniprésence du corps. On retrouve un corps à venir, une incision tente de défaire le corps, on a une main ensanglantée, un regard, un repli corporel, séquelles du corps, la chair, le corps nié, il simule avec le corps et la chevelure. Donc, bien qu'il occupe une large place dans le texte, ce corps est présenté de manière toujours fragmentée. Lorsque le corps n'est pas présenté par parties, main, regard, chair, chevelure, le poème donne à voir un corps difficilement saisissable, du moins un corps qu'il semble impossible de montrer au complet. Donc, dès l'exergue de Roger Giroux, qui est tiré de la suite « Je pas encore », qui est issu du recueil « Je », le corps n'existe pas dans le présent, il est, je cite, « l'image de mon corps à venir ». Donc, le décalage est double. Non seulement le corps appartient à un futur plus ou moins proche, mais en plus, on nous rappelle qu'il s'agit d'une image du corps. L'exergue insiste sur la figuration de ce corps, qui est en quelque sorte un double du corps réel. Ce dédoublement du corps est par ailleurs accentué tout au long du poème par 3 syntagmes, élaborer le reflet, le regard se dédouble et miroir. Et l'exergue lui-même participe à ce jeu de dédoublement. Bien que les phénomènes d'intertextualité abondent dans la poésie d'Anne-Marie Albiac, il est plutôt rare qu'elle décide de nommer directement, comme c'est le cas ici, l'auteur d'une citation. Donc le nom Roger Giroux, inscrit en ouverture du poème d'Albiac, fait en sorte qu'on ne sait plus exactement à quel corps la poète se réfère lorsqu'elle écrit « mon corps ». Cette confusion concernant l'identité du corps atteint son paroxysme lorsqu'Albiac écrit, et je cite, « c'est la chambre close, corps nié ». Donc le verbe « nier » laisse sous-entendre que le corps n'existe pas ou n'existe plus. Donc, dans ce vers, le corps est également rattaché directement grâce aux 2 points à la chambre close. Bien que cet espace intérieur vienne s'opposer à l'espace extérieur suggéré par le titre de la suite, hein, où la forêt est la plus sombre, les 2 lieux évoquent des espaces angoissants. Comme le souligne Marc-André Brouillette, je le cite, « on peut en effet associer cette chambre à celle d'un hôpital, car le poème fait référence à une femme qu'un groupe tente de sauver de la mort. » Mais on peut aussi imaginer un quelconque endroit secret regroupant les membres d'une secte venue y célébrer un sacrifice. » Fin de la citation. Donc, le choix de la chambre close comme espace dramatique du corps nié n'est pas anodin. L'énigme en chambre close est également une forme de roman policier. Elle présente souvent une intrigue dans laquelle un meurtre se produit dans une pièce hermétiquement fermée, d'où l'assassin ne peut s'échapper après le crime. Donc, les amateurs de romans policiers parmi vous, s'il y en a, se rappelleront certainement des fameux doubles assassinats dans la rue Morgue d'Edgar Poe ou encore du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux avec le fameux inspecteur Rouletabille. Le corps nié est donc ici associé à un espace de meurtre. Bien qu'il soit difficile d'affirmer avec certitude que ce corps soit la victime de la chambre close du poème, on retrouve plusieurs traces de violence dans l'extrait que je vous présente aujourd'hui. Je cite, « Une incision tente de défaire le corps, la main est ensanglantée, il y a des séquelles sur le corps, etc., etc., etc. » Donc, le « il » et le « elle » du poème sont victimes d'agressions physiques de la part d'un groupe de femmes, définies simplement par le pronom personnel « elle » au pluriel. Le corps, souvent présenté par morceaux, semble être victime d'un démembrement. Je le rappelle, dès le début du poème, une incision tente de défaire le corps. Le terme « réduction » apparaît d'ailleurs à deux reprises dans l'extrait et deux fois supplémentaire dans les trois pages du poème que je ne vous ai pas présenté. Alors que les marques typographiques peuvent parfois sembler arbitraires chez Albiac, le mot « réduction » apparaît les quatre fois en petites majuscules. Ce choix est paradoxal puisqu'il y a opposition entre le sens du terme « réduction » et son étalement visuel dans l'espace de la page. Par cette « réduction », on tente de soumettre le corps, voire de le faire disparaître. Je cite, « Il y prend son espace, il sera détruit. Réduction. » Par son isolement syntaxique et par sa différence typographique, la réduction prend les allures d'un impératif ou encore d'une invective lancée par le groupe dominant aux deux protagonistes. La réduction est imposante et il semble presque impossible d'y échapper. Au mieux, une fois la réduction opérée, il ne reste du corps qu'une main ensanglantée, une trace oubliée ou des empreintes, pour reprendre les mots du texte. Cette entreprise de réduction imposée par le groupe transforme les corps du « il » et du « elle » en de simples objets que l'on peut s'approprier. Il est plutôt difficile d'identifier avec précision les personnages de ce poème, puisque ceux-ci ne sont désignés que par des pronoms à la troisième personne, à l'exception de l'autre avec un « a » majuscule qui apparaît une seule fois dans le poème. Chaque pronom semble tout de même désigner une entité, « il » pour l'homme, « elle » pour la femme, « elle » au pluriel pour le groupe de femmes et « il » au pluriel qui, lui, évidemment, est plus instable. Je cite, « Ils accentuent la lumière ou simulent avec le corps le franc schissement de l'obscurité répétitive. Elles refusent de se joindre à ce qu'ils nomment d'eux. » Ici, la première occurrence du « il », donc « ils accentuent la lumière », pourrait à la fois désigner l'homme et la femme, l'homme et le groupe de femmes, ou encore tout cet ensemble. Cependant, le second « il » entre en opposition directe avec le « elle ». « Elle refuse de se joindre à ce qu'il nomme ». Ce « il », incluant le groupe de femmes, doit également posséder une présence masculine, sinon on sera en présence d'un « elle » au pluriel. L'homme, jusqu'alors victime d'agressions physiques, s'est-il joint au groupe de femmes? De nouveaux individus masculins se seraient-ils ajoutés au groupe? Donc, l'identité de ce groupe demeure floue et on ne sait pas plus trop ce qu'il advient de l'homme du poème. Participe-t-il à son tour à la violence infligée par le groupe dominant? On ne peut pas répondre à cette question avec certitude, du moins moi j'y arrive pas. Mais le poème met sans aucun doute en scène un jeu de tension entre le personnage masculin et le personnage féminin. Dès le début du texte, la violence s'opère dans un contexte érotique. Je cite, ils éprouvent un désespoir sexuel. Une, nudité héréditaire remonte à l'orgasme. Conception, l'opacité. Donc, dans cet extrait placé en incise entre deux courtes strophes présentant un corps agressé, le « il » pourrait désigner l'homme et la femme. Bien qu'ils éprouvent un désespoir sexuel, la conception peut désigner une relation sexuelle. Cependant, le bilan de cette strophe n'est guère positif. La conception semble n'engendrer que de l'opacité. Même si on retrouve un champ lexical lié à l'érotisme dans les pages suivantes, souffle, cri, désir, on peut se demander si, dans ce contexte d'agression physique, l'érotisme ne se confondrait pas plutôt avec une certaine violence sexuelle qui aurait à voir avec le motif de la réduction qui traverse tout le poème. Il y aurait alors, chez les protagonistes, une volonté d'atteindre la souffrance de l'autre. Cette tension est mise en relief à deux reprises aux pages 44 et 45, donc au milieu de la première page et à la fin de la première page dans la version que vous avez devant vous. Donc je cite, « Lequel des deux surgira le plus atteint dans la différence et pour lequel le plus de haine, le plus d'effort? » Ces deux passages se répondent directement par la répétition du terme « lequel » et par le remplacement sur la page. Les deux extraits se situent dans le recueil, pas dans votre version, en haut de page et semblent être le miroir l'un de l'autre. L'homme et la femme sont placés en position de confrontation à travers ces deux syntagmes interrogatifs où l'on semble comparer la douleur de l'un avec celle de l'autre. Comme le souligne avec justesse Marc-André Brouillette encore, je le cite, Cette mort appréhendée, dans une certaine mesure préparée d'avance, s'apparente à un rite sacrificiel célébrant, dans la violence et la douleur, la rencontre des deux protagonistes qui signent leur propre perte. Fin de la citation. Le corps, je l'ai déjà dit, apparaît dans Où la forêt est la plus sombre de manière à la fois figurative et à la fois abstraite. Les parties du corps sont reconnaissables, mais elles semblent s'articuler indépendamment les unes des autres. On ne sait pratiquement jamais à quel corps la main, la chair ou encore la chevelure appartiennent. Cette confusion est amplifiée par les jeux de miroirs et de reflets dont j'ai traité plus tôt. Le corps échappe presque toujours au lecteur, ce qui produit un effet d'étrangeté, mais étonnamment, l'aspect plus figuratif du poème crée paradoxalement un effet de proximité. Pour Albiac, et je la cite, « le corps doit tenter de coïncider avec l'origine de sa propre image et non se laisser dévier par les images que le social lui impose sous des termes de consommation. Cette tentative de désaliénation s'inscrit dans une recherche d'écriture. » Fin de la citation. Il y a chez Albiac un désir de s'opposer aux représentations stéréotypées du corps. Ce dernier est toujours changeant, mouvant et est présenté de manière incomplète. Il est toujours à venir, pour reprendre les mots de l'exergue. Albiac construit du corps pour mieux en déshabiller l'image. C'est dans cet incessant aller-retour que se dessinent les contours des corps qui n'apparaissent au final jamais dans leur totalité. Cette impossibilité d'identifier le corps et d'en faire un portrait précis apparaît comme un geste de résistance dans une société où le portrait et l'identification sont devenus obligatoires pour circuler, voire pour exister. Je pense par exemple au passeport ou à notre carte étudiante pour ceux et celles qui parmi vous veulent encore bénéficier d'un rabais de 10% chez n'importe quel magasin. Le corps est donc fuyant, il laisse des empreintes et il est une trace oubliée, pour reprendre les mots du poème. Le corps est bel et bien présent, mais il peut s'effacer à l'instar de l'empreinte dans la neige. Le terme « trace », quant à lui, illustre précisément ce jeu entre présence et absence. D'un côté, la trace est, et je cite, « oubliée », ce qui la place du côté de l'absence, mais de l'autre, l'italique, « trace » est en italique, l'italique insiste sur sa présence. La trace, par sa différence typographique avec les autres mots du vers, laisse en quelque sorte son empreinte dans la page. Comme l'affirme Judith Proulx dans son mémoire de maîtrise, le travail d'écriture d'Albiac, laisse apparaître le corps, et je cite, « de manière fragmentée ou compartimentée », mais la fragmentation ne vise pas qu'à le montrer selon des modalités stylistiques nouvelles. Elle critique la notion même de représentation. Fin de la citation. Ce poème redéfinit certes le corps en s'opposant à toute représentation stéréotypée, mais il s'oppose également à l'héritage surréaliste et à ses modes de représentation, portraits, comparaisons, métaphores, etc. Son mode d'apparaître est indissociable des éléments du texte et c'est à travers eux qu'il se définit. La destruction du corps, dont j'ai parlé plus tôt, est évidemment liée au thème de la violence, mais elle est aussi causée par la forme du poème. Chez Albiac, le corps est assujetti au mouvement de l'écriture et il suit la trajectoire du texte fragmenté. Même les strophes, bon, je ne sais pas si le terme de strophe fonctionne ici, on pourra en discuter, mais bon, disons strophe pour l'instant. Donc même les strophes les plus « sages », entre guillemets aussi, participent à une certaine mutilation. Je cite, « ils accentuent la lumière ou simulent avec le corps le franc schissement de l'obscurité répétitive. » Donc, si les enjambements introduisent déjà un certain déséquilibre, la rupture introduite par le tiret au milieu de franchissement a de quoi surprendre. Le mot n'est pas coupé par manque d'espace, hein, il y aurait très bien pu figurer sur n'importe quel des deux vers. La rupture saccade ici la lecture et brusque la définition même du terme. Le franchissement, je vous apprends rien, se définit par la capacité à traverser un espace, à passer au-delà d'une limite. Le tiret agit ici paradoxalement. Il permet de créer un pont entre les deux vers, mais il coupe également le terme en deux, ce qui a pour effet de le désunifier. Le travail sur la spatialité a un impact direct sur l'inscription du corps dans l'espace. Dans cette optique, la page crée un lien entre la textualité et la corporalité. Les mots, très éloignés les uns des autres, semblent étirer le corps jusqu'à l'écartèlement. Les nombreux blancs, créent un mouvement descendant semblable à un effet de chute qui entraîne le corps avec lui. Le corps ne se définit donc plus simplement comme un ensemble complet. Il se définit à travers le texte et sa forme. Toujours selon Judith Proulx, je cite, « le corps est donc altéré et instable, et dans cette perspective, il n'est pas surprenant que des concepts antagoniques soient rassemblés. » Fin de la citation. Dans la suite, on retrouve par exemple à la page 45 les termes « sujet » et « présence », qui viennent s'opposer au objet et absence de la page 46. Ce rapprochement des contraires déroute le lecteur parce qu'il laisse intact toute la profondeur polysémique à des termes déjà lourdement connotés. Hein. Bon, je pense plus particulièrement au couple sujet-objet qui, sans définition, est extrêmement chargé d'un point de vue, bon, que ce soit philosophique, littéraire ou autre. Donc, jamais Albiac ne précise ce qu'elle entend par sujet et objet. Elle dépasse ce couple de positions et permet d'appréhender un réel complexe hors de tout binarisme. J'aimerais maintenant parler, pour les quelques minutes qu'il me reste, du travail typographique et de l'inscription de la voix dans le poème. Bon, déjà dès le titre du recueil, Mezza Voce, le lecteur est averti de l'importance qu'occupera la voix dans le livre. En musique, Mezza Voce signifie un chanteur qui doit chanter à voix basse. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sens de ce titre et sur la musicalité chez Albiac, mais bon, comme le temps file, je vais me concentrer sur mon poème. Le corps est à l'origine de la voix et tous deux se déplacent dans l'espace. Dans la suite, Albiac met en place plusieurs voix qui se rencontrent et se heurtent dans l'espace de la page. Bien qu'ils ne prennent pas toujours directement la parole, les personnages sont nombreux. Hein? Il au pluriel, elle au pluriel, l'autre. On retrouve également un riche lexique lié à la voix dans ce poème. Énonciation, parole, cri, souffle, respirer, écho ou encore dire. Le poème d'Albiac est quelque chose de théâtral. Je rappelle d'ailleurs que la plus longue suite du recueil s'appelle « Théâtre ». En plus du nombre élevé de personnages, déjà le terme « personnage » semble plus approprié que « sujet poétique » par exemple, mais bon, ça aussi on pourrait en discuter. En plus du nombre élevé de personnages, plusieurs éléments typographiques et de ponctuation inscrivent des marques de théâtralité dans le poème. Je cite « Écho, ils sont plusieurs, et une page plus loin, réduction, scandale, il y prend son espace, il sera détruit. » Ce qu'on remarque dans ces extraits, mais aussi dans tout le poème, c'est que les signes de ponctuation dominants sont les guillemets et les deux points versus les plus fréquents points et virgules. Dans le second exemple, donc réduction, scandale, il y prend son espace, il sera détruit, les deux points créent un lien de causalité entre réduction et scandale, mais dans le premier cas, donc écho, ils sont plusieurs, le deux points ouvre le vers, puisqu'un saut de ligne le sépare du mot écho auquel il devrait être lié. Dans une étude sur la typographie chez Albiac, Marc-André Bouillette affirme qu'un deux points précédé d'un blanc a, et je le cite, pour effet de mettre l'accent sur la fonction introductive du signe d'énonciation. Donc, il me semble que dans le cas qui nous occupe, le saut de ligne joue un rôle similaire. Hein. L'écho, qui, déjà par définition, tient du son, semble prendre la parole. Il y a en quelque sorte une voix autonome. Dans la deuxième citation, « Réduction, scandale, il prend son espace, il sera détruit », c'est un blanc qui sépare les deux vers. Donc, ce blanc a deux fonctions majeures. Il a d'abord pour effet de ralentir la lecture. Il agit à une marque de silence en musique, par exemple comme une pause ou un soupir. Il est en lui-même une voix qui se tait et permet de penser la page un peu comme une partition ou encore comme un rouleau de piano mécanique. Et évidemment, ça fait déjà un premier lien avec le titre du recueil, Mezza Voce. Sa deuxième fonction est plus directement théâtrale. Le blanc peut aussi indiquer un changement de locuteur. D'ailleurs, dans l'extrait, le changement de locuteur s'accompagne de guillemets. Hein. Dans un essai dont le titre en dit déjà long, Le théâtre du poème, Jean-Marie Glaise affirme que la page agit comme, et je le cite, « un espace scénique où évoluent les énoncés, mobilité horizontale, verticale, distance variable entre les mots et les groupes de mots. » Plus loin, il ajoute qu'un autre facteur de la mobilité du texte et de sa théâtralisation est l'utilisation différentielle des caractères. Outre le caractère de base, on voit évoluer sur la scène les énoncés en italique, en capital et en capital italique. Fin de la citation. Les blancs et les multiples jeux typographiques permettent une organisation des voix sur la page scène. Cette organisation des voix passe en partie par les italiques qui peuvent alors agir comme une indication sur le timbre de la voix. Dans une entrevue avec Jean Dev, Albiac se dit certes influencé par Mallarmé, mais surtout par Shakespeare et par la tragédie grecque, ce qui peut en partie expliquer ce vaste travail de théâtralisation du poème. Les guillemets apparaissent également comme des ruptures énonciatives. Les extraits placés entre guillemets proviennent d'une autre voix. Il peut parfois s'agir de citations empruntées à un autre poète. Albiac reprend souvent des vers de Claude Royer-Journoux, par exemple, mais rien ne prouve que ce soit toujours le cas. Il est souvent impossible d'identifier les énonciateurs et les passages entre guillemets apparaissent alors comme des voix quelque peu fantomatiques qui flottent ici et là sur la page. Le travail sur les guillemets est poussé à l'extrême par Albiac lorsqu'elle écrit, je cite, « Leur parole, leur présence, une trace, oubliée à son énonciation, devenait un enjeu. » Fin de la citation. On trouve ici des guillemets ouvrants, mais jamais de guillemets fermants, dans un passage qui traite très clairement de la voix. Les mots « parole » et « énonciation » s'y trouvent. Donc, j'ai été un peu freak, là. J'ai parcouru avec attention tout le recueil à la recherche de guillemets fermants tout seul ou d'un autre guillemet ouvrant tout seul, et j'en ai pas trouvé. Bon, je sais pas trop quoi en faire, je vous avouerai. S'il peut s'agir d'une erreur, j'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression qu'Albiac, c'est pas forcément une erreur, mais bon, on pourrait en reparler. Donc, dur de dire s'il s'agit d'une erreur ou d'un geste volontaire, mais il semble que cette absence de guillemets fermants participe à ce jeu entre présence et absence dont j'ai parlé un peu plus tôt. La voix est là, mais elle demeure inidentifiable et sans fin visible. Elle semble se fondre dans le blanc de la page comme un chant mezza voce se perd dans l'espace. Je voudrais, pour conclure, faire l'aveu d'un échec. J'avais comme intuition de départ que le travail sur la corporalité effectué dans ce poème s'opposait à plusieurs égards à des conceptions du corps généralement admises par la sphère sociale. Bon, le travail de morcellement du corps s'opposant à la tradition du portrait, le flou entourant les personnages du poème s'opposant au désir d'une identité claire, nette et précise, la quête d'une origine propre au corps s'opposant aux images stéréotypées du corps imposées par le social, le corps mouvant s'opposant au corps fixe, etc., etc. Bien que je crois que mon hypothèse tient encore la route, je pense toutefois avoir tourné beaucoup en rond et m'être un peu perdu là où la forêt est la plus sombre. Le trajet de ma lecture m'a fait prendre d'autres chemins, et tout compte fait, je crois m'être beaucoup écarté de mes constats initiaux et par le fait même de la sociocritique qui devait servir de point de départ à ce colloque-atelier, et je m'en excuse. J'ai l'impression d'avoir un peu raté mon sujet et ne pas avoir su jongler suffisamment avec ce poème que j'ai personnellement trouvé assez difficilement saisissable. Je pense qu'il me faudrait, à tête reposée avec une bonne bière, poser la question de mon ratage. Sérieusement, je pense que je suis resté embourbé dans le texte et j'ai eu du mal à m'en sortir, comme si la forme m'empêchait de voir et me faisait répéter sans cesse les mêmes choses. Je me suis égaré dans mon analyse de la corporalité. Il aurait certainement fallu accorder plus d'importance à l'articulation violence-spatialité, peut-être dans une perspective disciplinaire comme l'entendait Foucault. Peut-être m'aurait-il également fallu parler de la place singulière qu'a occupée Albiac dans le champ littéraire, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, il ne me reste maintenant plus qu'à espérer que la partie atelier me permette de retrouver le sentier principal que je crois avoir perdu. Merci.